Vous êtes sur RTL.
.fr.
RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Vincent Parisot.
Oui, on refait la planète et ce soir, on refait la planète sans pesticides et notamment sans glyphosate. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, également en charge des transports, a annoncé vouloir interdire avant l'été prochain tous les usages non agricoles des pesticides. Alors, ils sont déjà bannis pour les collectivités et les particuliers, mais leur usage reste autorisé sur les espaces verts privés qui ne sont pas ouverts au public, comme par exemple les copropriétés, les terrains gérés par les entreprises, et c'est notamment le cas de la SNCF, grande utilisatrice et maire première utilisatrice de glyphosate en France. Elle s'en sert pour désherber ses voies. Alors, pour aller plus loin, on en parle avec le sénateur Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir sur RTL. On vous a invité parce que vous êtes à l'origine de la loi qui visait à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national. C'est d'ailleurs la loi Labbé, elle porte votre nom. Elle était entrée en vigueur en 2017. Apparemment, elle n'était pas suffisante, votre loi. Il y avait, comme on dit, des trous dans la raquette.
Alors, la loi a deux volets. Celui qui a été appliqué en 2017, ce sont les collectivités. Et au 1er janvier 2019, l'article 2, c'était pour les jardins particuliers. Donc, c'est interdit maintenant tous les pesticides de synthèse et ça fonctionne. Par contre, comme vous le dites, il y avait des trous dans la raquette. Sur les espaces publics, deux majeurs. Mais si je les avais intégrés, j'aurais pas eu de majorité. Ce sont les cimetières, espaces extrêmement sensibles. Ouais. Et les terrains de sport. Il n'y aurait pas eu de majorité si j'insistais. Alors je me dis, s'il ne reste que cela, je parle des espaces publics. Vous avez évoqué les copropriétés d'habitat privé. Effectivement, c'est à l'intérieur des villes, c'est non agricole, mais les pesticides sont toujours utilisés. Donc je travaille depuis pratiquement un an sur comment faire interdire sur ces espaces-là.
Ça veut dire surtout que vous approuvez ce que dit Elisabeth Borne.
Alors, complètement. Alors je remets dans le contexte. C'est suite à des conclusions catastrophiques du plan Ecophyto, où on met beaucoup d'argent pour diminuer l'utilisation des produits phyto.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation ces dernières années.
Oui. Alors évidemment, grande déclaration de la ministre et grand signe, à savoir tout ce qui est non agricole, on va s'en passer définitivement et partout. Alors moi, qui travaillais là-dessus, je n'en suis que satisfait. Par contre, avec beaucoup de vigilance. Là, on est dans le déclaratif. Bon, je la crois sincère, et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent avant l'été, comme elle a en plus donné le délai. Donc moi, oui, j'en suis satisfait. Oui, on va suivre véritablement, parce que on sait qu'il y aura encore du lobbying de certaines entreprises ou firmes. Donc on va être très vigilant.
Alors, vous parlez du lobbying de certaines entreprises. Alors évidemment, on pense à ceux, aux fabricants de glyphosate, les éternels Monsanto ou autres. Mais je voulais parler de la SNCF. Premier utilisateur de glyphosate en France. Le budget annuel du désherbage de la SNCF passerait, après l'interdiction du glyphosate, de 30 millions d'euros par an à 500 millions d'euros par an. C'est quand même énorme pour avoir une idée. Le coût de la grève aujourd'hui, c'est 850 millions. Donc ça fait deux tiers d'une grève chaque année. À l'arrivée, c'est l'usager qui paye quand même, non ?
Alors, on n'a pas évoqué la SNCF, effectivement. Lorsqu'on a écrit la loi, on les a rencontrés. Et à la SNCF, ils ont mis en avant des questions de sécurité. Les questions de sécurité, ça ne se discute pas. Et effectivement, on avait écarté les voies SNCF de l'application, tout en leur demandant d'y travailler. Alors, une cellule dédiée, extrêmement performante, c'est pas pour faire mine, travaille sur toutes les alternatives possibles. Donc la SNCF, ça reste particulier, par contre ça reste majeur, puisque en plus les voies SNCF passent dans les fonds de vallée en général, tout proche des cours d'eau, donc c'est un vrai sujet, mais on ne peut pas non plus dire il faut absolument tout arrêter au risque de déranger la sécurité des voies.
Bien sûr, donc dans votre esprit, on peut avoir une forme de tolérance vis-à-vis de la SNCF. Pour ces questions de sécurité, aujourd'hui.
Oui, dans la mesure où ils sont en démarche de recherche. Alors, les prix, je connaissais ce différentiel de tarifs, c'est absolument énorme. En tout cas, partout où ils peuvent le faire, Ils doivent le faire. Ils ont expérimenté un certain nombre de choses, hein, du pâturage de bord de voie, tout ça en sécurité évidemment. Donc autant de petites avancées. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a de la recherche à mettre en œuvre pour trouver les alternatives. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas.
Alors voilà pour la SNCF. On comprend, il y a des raisons de sécurité. Et, est-ce que vous avez la même position sur les copropriétés ? Parce qu'effectivement, ça, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, si vous êtes dans votre jardin depuis le 1er janvier, vous ne pouvez plus utiliser de glyphosate. En revanche, dans un jardin de copropriété, c'est encore possible, c'est ça ?
Oui, oui, c'est ça. Alors, pourquoi c'est resté à l'extérieur ? Parce que ce sont des espaces privés. On n'avait pas touché les espaces privés. Maintenant, on est à l'intérieur des agglomérations, des villes ou des bourgs. Les espaces privés doivent tomber sous le coup de l'interdiction rapidement. Là, et il n'y a aucune raison. Et on sait que ça peut se faire, puisque dans les jardins domestiques, ça se fait. Sur les espaces publics, ça se fait. Donc là, oui, formellement, et là-dessus, il n'y a pas lieu de discuter.
Alors, il n'y a pas lieu de discuter, peut-être, mais il y a une étude de professionnels de l'immobilier qui montre que ça va engendrer des hausses de 20 à 50% du coût de l'entretien des jardins, donc que ça va engendrer une hausse des charges de copropriété. Et j'ai envie de vous demander si c'est pas ça, pour le coup, de l'écologie punitive.
Alors ces chiffres-là, c'est complètement de l'enfumage, j'ose le dire. Mais lorsqu'on avait écrit la loi, on sait que derrière, il y a aussi les firmes. On nous avait dit que ce serait catastrophique pour les finances communales. Et en fait, les communes y arrivent sans que ce soit catastrophique. Les jardins particuliers, même chose, ça fonctionne. Là, ce sont des espaces verts d'agrément. On sait que ça peut se faire et il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire. Et les coûts qu'ils mettent en avant sont absolument faux.
Donc là, vous dites lobbying, parce que dans cette affaire, il y a énormément de lobbying de la part de qui on peut les désigner.
Essentiellement de la part des firmes, puis toute la chaîne. Il y a une forme de conglomérat qui s'appelle l'UIPP. L'UIPP, Protection des Plantes, Union Interprofessionnelle pour la Protection des Plantes, et sa petite sœur, l'Union pour la Protection des Jardins, l'UPJ. Mais derrière, il y a tous les fournisseurs de produits chimiques, et eux, ils sont arc-boutés pour que les pratiques puissent continuer, parce que derrière, ils ont leur business.
Et en même temps, ils ont des arguments, parce qu'on peut aussi se demander si c'est pas paradoxal de décider de telles interdictions alors que le glyphosate reste autorisé en Europe au moins jusqu'en 2022 et que le débat scientifique sur sa dangerosité pour l'homme, j'allais dire, n'a pas été tranché de manière définitive et claire. Le débat, en tout cas, il continue.
Alors là, on parle de santé humaine. Le glyphosate, santé humaine, il y a des scientifiques qui disent que non, il y en a qui disent absolument que oui, donc il y a doute. Mais il n'y a pas que la santé humaine. On voit l'impact du glyphosate sur la biodiversité. C'est une catastrophe. Santé humaine et biodiversité sont intimement liés. Alors, on sépare les choses comme ça. De toute façon, la décision glyphosate, elle est prise en France et elle est prise politiquement par le président de la République. Évidemment, pour moi, c'est une très bonne chose et c'est la France qui a déjà emmener l'Europe à la limite de 5 ans. Et c'est la France qui va montrer l'exemple pour qu'on réduise encore les délais. Mais derrière ça, c'est pas le plaisir d'interdire, c'est faire en sorte que la transition agricole et alimentaire, les deux étant liés, puissent se faire et se faire rapidement aujourd'hui, parce que l'avenir est là. Et l'avenir n'est pas dans la poursuite d'un modèle basé sur l'agrochimie.
Alors, ça pose la question évidemment des alternatives. Certains disent, on va remplacer le glyphosate par la binette, par le désherbage manuel ou mécanique.
Oui.
C'était une image, la binette, évidemment.
Avant les molécules chimiques, l'agriculture se pratiquait. Bien sûr, il y a eu des progrès et des progrès positifs. L'agriculture biologique, qui est une autre forme d'agriculture, eux, ils font sans ces produits-là. Et ils y arrivent. Mais ça suppose un changement global de méthode, en travaillant sur les rotations, sur les cultures associées, sur les systèmes de polyculture-élevage. Alors, c'est pas simple, ça c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que nous demandons des moyens. Parce que des moyens, il y en a. Les 9 milliards de fonds européens chaque année pour la France, que ces moyens-là soient ciblés vers la transition, plutôt que de continuer à financer à l'hectare que les plus grosses exploitations qui font dans le hard, il faut le dire, soient les mieux lotis. C'est pour ça que l'on demande des paiements pour services environnementaux. Donc là, les enjeux sont très forts sur la discussion pour la nouvelle PAC qui se prépare.
Alors justement, vous parliez de l'agriculture, de l'épandage qui reste autorisé pour l'instant, mais le gouvernement a tranché sur les distances minimales d'épandage des pesticides vis-à-vis des habitations, 5 à 10 mètres selon les types de cultures. Et pourtant, la polémique continue avec des arrêts anti-pesticides qui sont pris par des dizaines de maires, qui sont d'ailleurs systématiquement contestés par l'État. Ces maires, d'ailleurs, vous en avez soutenu, je crois, un certain nombre, en tout cas en Bretagne.
Oui, non, mais au national, je soutiens ces maires-là, qui pour moi sont des maires courageux.
Et comment on sort de cet imbroglio? Parce que voilà, il y a la loi et puis des maires qui prennent de leur côté des décisions qui sont contestées par l'État.
Alors, la plupart du temps, les arrêtés sont cassés, ouais. Mais sauf au tribunal de Cergy, il y a un mois et demi, le tribunal a donné raison aux maires qui ont pris les arrêtés, en disant que puisque l'État ne protège pas suffisamment les populations, eh bien le maire se substitue. Alors derrière, il y a du gros débat. Mais alors 5 mètres, 10 mètres, il y a un côté ridicule, à mon sens. On ne prend pas en compte la volatilité des produits. Mmh. On ne prend pas en compte non plus les effets cocktails de ces produits. Puisqu'il y en a plein, les mélanges sont détonnants, on ne maîtrise rien du tout. Lorsque l'on sait qu'on peut faire sans, il y a d'autres manières, un autre modèle agricole. Comme je vous l'ai dit, la question de la transition, pas du jour au lendemain, mais rapidement et avec des lignes qui sont données et des moyens derrière.
Alors, pas du jour au lendemain, mais rapidement. Ça veut dire que l'interdiction totale du glyphosate, vous y croyez, mais à quelle échéance ? 2022 ?
Oui, oui, oui. Alors, avec des dérogations. Moi, je ne suis pas un intégriste. Qu'il y ait certaines dérogations fondées, ça peut s'entendre. Maintenant, l'essentiel, c'est que le glyphosate, dans son l'immensité de son utilisation, soit interdit parce qu'on a des méthodes alternatives. Surtout pas des molécules alternatives.
Mmh. D'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de recherche, je crois, sur les molécules alternatives au niveau de l'INRA ou autre.
Alors, on ne va pas parler de molécules parce que si c'est des molécules qui sont désherbantes totales, elles sont négatives. Ouais. Par contre, il y a d'autres produits qu'on appelle préparations naturelles peu préoccupantes. Par des huiles essentielles, il y a des agriculteurs qui traitent, qui soignent leur culture. Et ça fonctionne. Ça fait débat actuellement parce que le système voudrait qu'il y ait des besoins de dossiers lourds, d'autorisation de mise sur le marché pour les préparations naturelles qui peuvent être faites à la ferme. Je côtoie ces personnes. Mmh. C'est complètement magnifique le travail qu'ils mènent de recherche collaborative. Par contre, on manque de recherche publique là-dessus, sachant qu'il y a 2 ans, les chiffres, c'était 10% pour la recherche liée à la bio et tout le reste pour l'agriculture hard.
Ça veut dire qu'il faudra aussi les accompagner, les agriculteurs qui vont devoir arrêter le glyphosate force, oui, parce que certains ne le font pas de gré.
Non, mais il y en a de plus en plus qui comprennent maintenant. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont victimes du système, ils voudraient bien, mais avec leurs emprunts et les liens qu'ils ont avec les firmes, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors on se doit de les aider, et surtout pas les pointer du doigt, les accuser de quoi que ce soit, mais maintenant c'est un problème sociétal global qui concerne les agriculteurs, qui d'ailleurs sont les premières victimes. On parle trop peu des maladies professionnelles des agriculteurs. Le Parkinson a été reconnu maladie professionnelle, c'est pas pour rien. Donc c'est véritablement tout un système qui est à remettre en question.
Merci beaucoup, sénateur Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan. Merci d'être venu ce soir refaire la planète sur RTL.
Merci également pour ce que vous faites, parce qu'on a besoin de vous pour faire savoir.
Et dans un instant sur RTL, autoradio, attention, sujet sensible en vue, le prix des autoroutes.
On refait la planète sur RTL.